Bonjour à tous, bienvenue sur RDIWA, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur de Radio Diwa. Et là, on va enregistrer une émission un peu spéciale. Je suis avec Seb. Et Seb, il a une expérience dans le spatial assez conséquente. Donc je suis très content de le rencontrer et de discuter avec lui. Et on va commencer un peu cette interview. On va faire deux parties d'interview. On va commencer par son parcours, comment il en est arrivé à ce qu'il est maintenant. Et une deuxième partie sur concrètement sur quoi il travaille, qu'est-ce qu'il fait exactement et quels sont ses projets à venir. Donc Seb,
Bonjour,
salut.
salut, salut. Oui, bah écoute, donc je m'appelle Sébastien Lemestre.
Ouais.
Donc mon parcours, je suis un ingénieur aérospatial à la base.
Ok.
Je voulais pas spécialement finir dans le spatial, j'étais plus aéro à l'époque, donc aviation. J'ai fait des études un peu dans ce sens.
Ok, t'as fait un bac S.
Ouais, j'ai fait un bac S mathématiques, j'ai fait une prépa,
Ok.
et puis après j'ai fait une école à Bordeaux.
Ok, à Bordeaux, c'est là où il y a tous les le centre
Y a Toulouse et Bordeaux,
Toulouse, oui.
c'est deux villes, surtout Toulouse. Et puis à la sortie de mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler en Belgique, à l'Observatoire Royal de Belgique. Parce qu'une nouvelle mission venait d'arriver autour de Mars. C'était la mission Mars Express, qui est toujours en vol autour de Mars aujourd'hui.
Toujours en orbite
Ouais,
là-bas.
toujours en orbite.
Ok.
Et ils avaient besoin d'un ingénieur de recherche, ils appellent ça. Donc
Donc au départ, t'étais pas dans le spatial.
non,
T'étais plutôt
j'ai
dans
fait des études dans le spatial, mais c'était de l'ingénierie déjà. Donc moi, ce que je faisais, c'était contrôle d'attitude des lanceurs, donc des fusées. Contrôle d'attitude des satellites.
Alors, contrôle d'attitude,
L'attitude,
c'est.
c'est l'orientation dans
Voilà.
l'espace, quoi.
Ok.
Et donc j'étais plus fait pour l'automatisme, le pilote automatique sur un avion, tout ce qui était avionique, quoi.
D'accord.
Je suis un ingénieur système aérospatial, en fait. J'ai jamais pratiqué. Enfin, j'avais un petit peu fait des stages chez Dassault Aviation, des trucs comme ça. Donc ça, c'était mon expérience dans l'aviation. C'est restreint à peu près à mes stages d'école, quoi.
En école
Ouais,
d'ingénieur.
ouais. Et puis, mon premier job, mon première opportunité, c'était un ingénieur de recherche qui était là pour faire le support sur les missions spatiales, le support à des scientifiques, des planétologues, donc des gens qui étudient les planètes du système solaire en particulier, quoi.
Oui.
Et donc, c'est ce que j'ai fait au début. Et puis, au bout de quelques années, on m'a demandé est-ce que je voulais faire un doctorat ou pas pour rester dans le domaine. J'ai dit OK, mais j'ai pas quitté ma casquette d'ingénieur du labo parce que je voulais garder mon salaire à l'époque, puisque le
Ouais.
thésard de base, donc le doctorant de base, gagne rien, hein, grosso
Ok.
modo, et moi je
Ouais.
venais d'avoir des enfants.
Ah
Donc
oui,
j'avais pas
avec
envie
un
de.
salaire
Ouais,
d'ingénieur, bon.
je voulais garder mon salaire. Donc j'ai fait en fait les deux en même temps.
Ah ouais, ok.
Ouais, donc du coup, ça a été un peu plus long, ça m'a pris 6 ans. En Belgique, c'est 4 ans les thèses, mais quand tu es assistant, du coup, je devenais assistant.
6 ans.
Et donc là, je l'ai fait en 6 ans.
D'accord.
Mais c'était sans stress non plus, puisque j'avais pas d'exigence, quoi.
Est-ce que tu as eu la tête dans les étoiles à un moment? Est-ce que ça t'a attiré, ces histoires de planètes, d'étoiles, ou dans ton parcours, c'est venu comme ça,
Non, ouais,
par
ça c'est
les
assez marrant.
opportunités?
Je suis quelqu'un, je peux en parler aujourd'hui que j'ai 40 ans et que je peux me retourner regarder mon parcours un peu. J'ai toujours eu le sentiment que mon parcours était aléatoire, qu'il
En
était
fonction des
complètement
opportunités,
pas
ouais.
prémédité. Et en réalité, quand je le regarde aujourd'hui, je trouve qu'il me ressemble énormément et qu'il me convient énormément, quoi. Et donc, mais ça n'a pas été ce que j'ai ressenti tout au long du parcours. Par exemple, au bout de quelques années d'ingénierie, là, quand j'étais au labo en Belgique, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas fait pour moi, j'ai envie de contribuer plus concrètement à la société. Et tu te sens quand même parfois complètement décalé du monde, hein, dans des laboratoires de recherche,
Ouais.
sur savoir si Mars a un noyau liquide ou si quelle est la densité atmosphérique, machin ou truc. Ouf. Et que les autres, s'ils regardent leur compte en banque ou je ne sais quoi, enfin, des fois, tu te sens complètement en décalage. ou d'autres qui commencent à créer leur boîte, on était jeunes à l'époque, tu vois, les gens sont là concrètement, et moi, je me sentais un peu dans un monde farfelu, irréel, quoi.
D'accord.
Aujourd'hui, j'adore ce monde-là, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre, qu'il me collait bien aussi, quoi.
D'accord.
Et voilà, quoi. Et puis après mon doctorat, je regardais par hasard une annonce d'un job dans un centre NASA qui décrivait grosso modo exactement mon profil, sachant que j'ai un profil très, très spécifique qu'on trouvera, enfin, il n'y a pas énormément de gens qui ont le même profil que moi, hein, comme beaucoup.
Est-ce que ta thèse, tu l'as fait sur quoi du coup?
Donc ma thèse, moi je l'ai fait sur les atterrisseurs martiens.
D'accord.
Et sur, enfin pas que martien, mais en tout cas dans du système martien, donc sur Mars ou sur les lunes de Mars, et de voir comment on pouvait, à travers un lien radio entre ces atterrisseurs-là et la Terre, comment on pouvait améliorer notre connaissance des planètes ou des satellites naturels. En regardant simplement via ce lien radio, on arrive à reconstruire la trajectoire dans l'espace de ces sondes spatiale.
Ouais.
Et la trajectoire d'un atterrisseur, donc de quelque chose qui est posé à la surface d'un objet céleste, est complètement dirigée ou conduite par le comportement de l'objet céleste en lui-même. Donc comment il
D'accord.
tourne et comment il évolue autour du Soleil.
Sa trajectoire,
sa rotation en l'occurrence là, et sa révolution autour du Soleil.
D'accord, ouais.
Mais la rotation d'un corps, par exemple, elle va être très influencée par ce qui se passe à l'intérieur ou par ce qui se passe dans son atmosphère. Et donc, juste en regardant les trajectoires, tu peux déterminer comment varie la densité atmosphérique avec les saisons, par exemple. Donc, combien de masse est transférée d'un pôle à un autre pôle, par exemple.
De masse d'air.
Okay,
ouais.
Et puis tu peux voir vibrer une planète, et la manière dont elle va vibrer dépend de ce qui se passe à son train fort intérieur, au beau milieu de son noyau, quoi.
Okay.
Et donc tu peux voir si un noyau est liquide ou pas juste en regardant la trajectoire d'une sonde à sa surface.
D'accord.
Dans l'espace.
Et ça, c'était ta thèse.
Ça, c'était ma thèse.
Ok.
Et voilà.
Et donc, t'as vu une annonce de la NASA qui reprenait...
L'annonce de la NASA était sur le calcul de trajectoire de sondes artificielles, donc de satellites, quoi.
Ah oui, donc c'était pile poil dans...
Ça correspondait complètement au domaine dans lequel je suis, et donc j'ai été embauché là-bas pour travailler sur Juno, qui est une sonde qui est en orbite aujourd'hui autour de Jupiter.
Ok.
Et donc je faisais du calcul, on appelle ça du calcul d'orbite, hein, donc je faisais le calcul d'orbite de la trajectoire de Juno autour de Jupiter pour déterminer le champ de gravité de Jupiter et pour voir si on pouvait contraindre des quantités comme l'épaisseur de sa couche atmosphérique externe, la profondeur de ses vents, globalement la science que je fais nous permet de comprendre une planète ou un corps céleste dans son ensemble. On appelle ça de la géodésie, donc spatiale ou planétaire. C'est vraiment quelque chose qui caractérise son champ de gravité, sa forme, des constantes à l'échelle globale de la planète, pas à l'échelle locale d'un pays pour la Terre,
d'accord,
par exemple. Ah, oui. C'est vraiment quelque chose qui le caractérise dans son ensemble. Voilà.
D'accord, ok. Et donc, tu es rentré à la NASA comme ça.
Oui, je suis rentré. Donc wow. Là, pareil, j'ai eu de la chance. Hein. Tu sais, c'est toujours un facteur chance, il ne faut pas trop rêver, quoi. Il s'avérait que...
Parce que la NASA, elle recrute des gens, c'est...
Ouais, t'as des offres.
Ouais.
Et donc là, il s'avérait que pour avoir le poste, donc il fallait faire un projet de recherche et dire ce que t'avais amené à la NASA, quoi, en gros.
Ouais,
Et donc, il s'avérait que la mission sur laquelle je proposais de travailler sur une mission qui venait d'arriver, ça c'était un de mes sujets, donc Jupiter. Je voulais sonder l'intérieur profond de Jupiter en regardant comment Jupiter... évolue dans le temps en termes d'orientation.
Ouais, parce que c'est des Jupiter a un noyau solide.
Jupiter a un noyau solide. On n'appelle plus vraiment noyau parce qu'on pense que c'est qu'à la différence de la Terre par exemple, qui a un noyau dont la taille est bien limitée. Et qui après il y a un changement de phase et tout d'un coup tu rentres dans un. Sur Terre, tu as une graine, donc un noyau solide tout au centre.
Ouais.
Et puis après, tu as un noyau liquide juste après, puis après, tu as le manteau inférieur, supérieur, etc. Et en fait, on a vraiment des changements d'état, de phase. Donc la matière change complètement de comportement à l'endroit de ces transitions-là. Alors que dans Jupiter, on pense aujourd'hui, grâce à la mission de Juno, que c'est quelque chose de plus transitoire, de plus lent. C'est-à-dire qu'on a une espèce de noyau dilué, si tu veux. Au centre, il est vraiment solide, métallique, très certainement.
Ouais.
Et après, il se dilue plus tu t'éloignes du centre,
jusqu'à un état
plus ou moins gazeux, d'abord en passant par un espèce de fluide, etc. Après, je ne suis pas le spécialiste de la structure interne des planètes, et encore moins des planètes gazeuses. Mais parce que moi, vraiment, mon rôle, c'était de leur donner des contraintes à ces gens-là, de leur dire, OK, si vos modèles, vous voulez qu'ils marchent, il faut qu'ils « fit », comme on dit en anglais, il faut qu'ils soient en accord avec les observations. Et moi, je leur donne des observations. Je leur dis, voilà, le champ de gravité, il est ce qu'il est. Okay. L'orientation de la planète, elle est ce qu'elle est, etc.
D'accord, OK. Donc ça, c'était ta première mission à la NASA.
C'était une des missions, ouais, qui a couvert toute la durée où j'ai été. Après, j'ai travaillé sur d'autres missions aussi.
Ouais, juste avant qu'on continue, tu peux nous parler de la NASA un peu, comment ça se passe? Du coup, tu étais aux États-Unis?
Ouais. J'étais en Californie, à Pasadena.
Donc ouais, c'est vraiment la ville.
la ville des nerds.
J'étais au JPL, ouais.
Ouais, j'étais au JPL, ouais.
Waouh, trop classe.
Et ouais, c'était cool.
C'est quoi cette série? Ça me fait penser à...
C'est Big Bang
Theory. Ah oui, voilà, merci.
Ouais, ben moi j'étais... Donc JPL est un département aussi de Caltech. Donc,
C'est l'université...
C'est l'université rattachée à JPL, ou l'inverse en fait.
Ok.
Donc c'est un peu compliqué administrativement, mais donc il y a 10 centres NASA en tout. Il y en a deux sur la côte ouest. Il y en a un, c'est NASA Ames, qui est près de San Francisco, mais qui est assez petit. Et il y a le JPL, pour Jet Propulsion Laboratory, ça c'est le nom, et qui est à Pasadena, un peu dans le nord de Los Angeles. Donc là, c'est là où moi j'étais. On est 5000 là, ils sont 5000.
Ok.
Et c'est rattaché à une université, hein, et comme le MIT est rattaché aussi au Goddard, donc il y a un autre centre spatial côté Washington, DC.
D'accord.
Et nous, on est vraiment, enfin nous, enfin le JPL était vraiment un des départements de l'université. Donc moi, j'étais NASA, JPL, Caltech, ce qui le fait quand même assez chouette ça.
Ouais, c'est clair, ouais.
Et donc à la NASA, il y a 10 centres, il y a à peu près, je sais pas exactement les chiffres, mais ils sont plusieurs dizaines de milliers à travailler là.
Ouais.
Et JPL est un des plus gros centres quand même, je crois.
Toutes les sondes, tout ce qui est exploration.
Ouais. Le JPL a toujours un rôle assez énorme.
Ouais.
Donc il y a deux gros centres pour tout ce qui est interplanétaire, c'est le JPL et le Goddard, justement. Goddard Space Flight Center, je ne sais plus quoi.
Ok.
Space Center plutôt. Et donc c'est un peu ça aussi comme ça qu'ils ont. Ils font. Ils gèrent la NASA, ils les mettent en concurrence. Donc chaque mission.
Tu veux dire, les deux centres, ils les mettent en concurrence?
Tous les centres sont en concurrence, ouais.
Ceux qui apportent la meilleure idée,
voilà.
La meilleure truc.
Donc le moins cher, la meilleure idée, etc. Et donc, ça permet aussi d'avoir une productivité qu'on connaît. Enfin, les gens ne savent pas mot pour mot le dire, mais tout le monde connaît la NASA comme étant quelque chose qui marche bien dans l'exploration spatiale. On ne peut pas forcément en dire autant de toutes les agences spatiales.
Ouais.
Et une des raisons, outre le budget qu'ils ont, qui est quand même grosso modo 10 ou je ne sais plus combien de fois plus élevé que celui de l'agence spatiale européenne, par exemple, voire même peut-être plus que ça, outre le budget beaucoup plus élevé, ils ont aussi ce système de centre et de défis, enfin de compétition au milieu, qui peut être vu d'un certain point de vue comme...
C'est assez américain, enfin états-unien comme truc.
Ouais, mais tu peux t'associer avec un autre centre et avoir plus de chances de décrocher l'argent que la NASA Headquarter propose pour une certaine mission, tu vois.
D'accord.
Moi, en tout cas, en interne, je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de lourd.
Une pression plus que ça, ouais.
Non, pas spécialement, quoi. Et le JPL est très en avance par rapport aux autres centres en termes de tout ce qui est robotique.
Ouais.
Donc, c'est eux qui font les robots, justement, qui roulent à la surface des planètes comme à la surface de Mars.
Ils ont une grosse expérience.
Ouais, ils ont une expérience de dingue et tout. Et ils ont beaucoup de monde. Et même en interne, la manière dont c'était géré, c'était vachement intéressant aussi parce que ils encourageaient les idées nouvelles. Ils encourageaient les gens à dire OK, moi je suis utilisé pour faire du calcul d'orbite, mais je suis aussi. taper dans les mains et je pense que ça peut être utile pour quelque chose, par exemple. Tu vois. Donc, ils encouragent la créativité, toujours un peu côté défi, c'est vrai, mais aussi plein de projets incroyables qui sont proposés. Par exemple, je pense à ça là tout de suite en parlant, mais il y a plein de pissenlits ici, d'accord. Donc l'espèce de ce que je sais pas comment on appelle ça, je suis pas un natif du coin, mais tu vois l'espèce de fleur de pissenlit qui blanche, qui vole là, ou je sais pas si c'est pas la fleur.
Oui. C'est les graines.
Ouais, la graine. Il y a des missions qui ont été designées pour Jupiter ou Saturne, basé sur ce concept-là, donc la manière dont volent ces choses-là, pour bénéficier de l'énergie de l'atmosphère, sans apport d'énergie du spacecraft, donc de l'engin, juste pour flotter dans l'atmosphère de Jupiter ou Saturne. C'est génial, quoi.
Wow.
Moi, j'adore ça. Mmh. Et donc, voilà, c'est le genre de truc que le JPL propose. Ça ne veut pas dire que ça va voler un jour, mais l'idée est là. Les gens sont là pour développer et payer en partie pour ça aussi.
Ouais. Est-ce que c'est très séquencé, cloisonné, comme chaque personne ou bureau bosse sur un truc précis et...
Moi, je trouve pas, non, ça ne l'est pas. Alors, je vais modérer ce que je dis là juste après, mais non, ça ne l'est pas parce qu'en réalité, tu n'as pas réellement, dans la structure du JPL, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres sens, mais tu as un patron hiérarchique. Ok, donc ton employeur, celui qui signe tes vacances, si tu veux.
Oui.
Mais c'est pas lui qui te paye 100% de ton salaire, forcément. Même souvent, c'est pas lui qui te paye du tout 100% de ton salaire. Il peut te payer 10% de ton salaire, 20% de ton salaire. Et en fait, les autres pourcents de ton, le reste de ton salaire est payé par ceux qui viennent te voir pour te dire, j'ai une mission sur, moi on est venu déjà me voir, par exemple, j'ai une mission sur Phobos, la lune principale de Mars. Est-ce que ça t'intéresserait de regarder si c'est faisable et est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Donc, je suis à ce moment-là employé quelque part par quelqu'un d'autre qui est sur une autre mission et je passe X temps de mon X pourcentage de mon temps là-dedans et il facture, tu factures à ces gens-là.
Okay.
Et donc, du coup, ça.
C'est tout interlié.
Alors, il y en a qui ont des tâches qui sont des tâches d'opérationnel, tu ne peux pas les sortir de là. Et le bémol que je voulais mettre à ça, ce que je t'ai dit, c'est que moi, j'étais étranger et j'avais pas de green card. Et alors ça, c'était un des problèmes. C'est une des raisons aussi pour lesquelles...
Green card,
la carte verte.
C'est donc pour rester dans les États-Unis.
C'est pour être considéré comme un citoyen américain sans vraiment l'être, en fait.
D'accord.
Ouais. Mais dans les centres NASA comme ça, tu peux imaginer que t'es badgé, que t'es... L'espionnage industriel est quand même très fort présent dans les têtes des Américains, et voire même dans les faits. Il s'est passé, pendant que j'y étais, des cas de vol par des professeurs de Caltech qui vendaient à des Chinois des trucs, enfin tu vois, des trucs un peu marrants, quoi.
Putain.
Ouais, tu te croirais dans des films, quoi. Mais moi, en tant qu'étranger, ça m'arrivait de me faire sortir d'une réunion à un moment donné. Bon, voilà, maintenant
c'est top secret, le Frenchie.
Ouais, tu dois sortir, quoi. Et ça, je t'avouerais que t'as un peu les boules. Surtout quand parfois dans la même salle de réunion t'as un mec qui n'est pas NASA. Mais qui est américain. Donc lui, il a le droit de rester. Toi, tu fais partie de la boîte, mais tu sors, tu vois.
C'est hétéroclite comme milieu. Il y a un peu de toute nationalité, mais c'est quand même bien américain.
Non, c'est quand même assez hétéroclite. Okay. Des Français, il y en avait quand même, je dirais une centaine quand même. Quoi.
Ah ouais, d'accord.
C'était une des nations les plus représentées. Alors moi, je suis français, mais je représentais la Belgique, puisque j'avais fait mon doctorat en Belgique.
Oui.
Là, moi, j'étais seul, par exemple. Mais il y a les Français, les Allemands, les Italiens, ils sont quand même assez représentés.
Ok.
Français, une centaine de personnes, quoi. Un truc comme ça.
D'accord. Merci pour ces précisions.
Ouais.
Et du coup, alors si on revient un peu à toi, à ce que tu faisais, donc tu étais sur Juno, donc la sonde qui est partie sur Jupiter.
Ouais.
Et donc après ça, tu as plus travaillé sur Mars.
Donc après ça, donc en parallèle de Juno, je travaillais encore un peu dans le système martien pour des propositions de missions qui ont échoué, qui n'ont pas été sélectionnées par la NASA pour être financées, quoi.
D'accord.
Mon employeur belge, avant que je parte à la NASA, m'a recontacté pour me dire, l'Agence spatiale européenne vient de sélectionner une mission vers Mars. qui prévoit d'avoir un atterrisseur à la surface. Et comme j'avais fait mon doctorat sur le sujet et que c'était quelque chose que je connaissais assez bien,
qui te connaissait
et
aussi.
Qui me connaissait bien, donc ils m'ont proposé de rentrer, en gros. C'était en tout cas une des options que j'avais grâce à cette mission-là. Donc il s'est posé la question, on reste, on part.
Oui, parce que tu es parti en famille. Hein,
voilà, ouais, moi je suis parti avec deux enfants, mon troisième enfant est né là-bas.
Okay.
Et ma femme était sage-femme, et donc pour elle, il fallait. Son diplôme n'était pas reconnu là-bas, tu vois. Donc
ah,
c'était,
ouais.
C'était pas si simple l'intégration, même si je parle d'intégration professionnelle où les gens sont super accueillants et tout, mais. Le climat est doux, on était vraiment très bien, mais est-ce qu'on voulait y rester toute notre vie ou pas? C'est poser la question à un moment donné, quoi.
Bien sûr, ouais. C'est une question personnelle. Ouais.
Et donc pour plein de raisons, et en particulier en fait finalement personnelle, parce que professionnel, je pense que j'aurais fait l'autre choix, mais on est revenu en Belgique, on est venu en Belgique. Et donc c'était au moment où la mission ExoMars 2020, on l'appelle, maintenant plus puisqu'elle 2020, c'était pour 2020, ça veut dire qu'elle était censée être lancée en juillet cette année et elle va pas être lancée en juillet parce que le coronavirus, parce que plein d'autres choses.
Okay.
Finalement, elle est retardée de 2 ans et donc ça va être la mission 2022.
Ouais,
Et
2 ans
donc,
quand même.
Ouais, parce que les fenêtres de lancement pour Mars se réouvrent tous les 750 jours à peu près, 790 jours.
En gros, tous les 2 ans.
Un peu
c'est
plus.
Là où Mars passe le plus proche de la Terre.
Voilà, ouais,
c'est ça.
C'est ça. Parce qu'on bénéficie, on fait ça pour que ça nous coûte le moins possible d'énergie de transfert d'une planète à l'autre, en fait. Donc on attend que Mars se rapproche pour lancer une sonde et y aller.
Ok.
Ce qui, pour les vols habités humains, est un gros problème, quoi. Parce on pourra envoyer des humains sur Mars pendant quelques jours assez facilement, puisque on pourrait lancer la sonde assez tôt, au moment où Mars se rapproche de la Terre,
oui.
Bénéficier d'un court temps
de
croisière,
de trajet,
quoi,
ouais.
Ouais, qui est de 6 mois, disons, 5, 6, 7 mois, et puis rester quelques temps et revenir. Si on ne revient pas tout de suite au bout de quelques jours à passer sur Mars, eh ben, les astronautes sont là pendant 2 ans. Quoi.
Et, ouais, ah oui,
et ça, c'est un très gros problème pour plein de choses. Bref, c'est un autre sujet. Et,
ouais.
Et donc, je ne sais plus ce que je disais.
Tu étais reparti en Europe
ah oui, donc je suis
sur ExoMars qui
voilà.
était décalé.
Voilà, qui vient d'être décalé.
Qui vient d'être
là,
décalé.
En mars, là, dernier.
Ouais.
Mais et donc, il a fallu. Enfin, j'ai eu cette opportunité immense, je crois. D'appliquer ce que j'avais théorisé dans mon doctorat quelques années plus tôt.
Ah ouais.
Et donc, du coup, voilà, et je suis devenu responsable de ce projet-là, et ce qu'on appelle le deputy, donc le directeur adjoint, si tu veux, de ce projet. Ouais.
Wow.
Donc, ça, c'est cool, et a priori, de ce que ma chef m'a dit, qui elle est la directrice, je devrais être ce qu'on appelle le PI, le Principal Investigator, c'est comme ça qu'on dit les grands patrons des instruments ou des missions.
C'est toi qui vas gérer tout ça, quoi.
À partir de juillet, peut-être.
Waouh!
J'essaie à voir.
Putain, trop classe.
Mais ça c'est cool. Ouais.
Est-ce que tu es content de faire ça ou c'est beaucoup de pression?
Ça a été là. Il s'avère que j'ai dit, hein, j'avais 3 enfants. Mon fils né aux États-Unis, mais j'ai eu une 4e enfant. Comme si c'était pas assez fatigant.
Quoi, et tout est possible, croyez-y.
Et donc, j'ai eu 4 enfants et la 4e est née pendant le développement de l'instrument. Et je t'avoue que c'était dur.
Ouais.
Entre les nuits très courtes et tout, je faisais par exemple régulièrement des syncopes, tu vois. C'est pour te dire un peu,
ah ouais.
Ouais,
okay.
J'étais sous tension, même si tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu sais, enfin, un projet comme ça, t'as l'horloge qui tique au-dessus de toi parce que t'es toujours en retard et il y a toujours à faire et c'est toujours trop cher, etc. Et c'était toujours des vrais défis technologiques aussi, c'est pas
bien
simplement.
Bien sûr, Mars, c'est une mission sur deux qui capote, non?
Ouais, c'est pas un gros taux de réussite.
Ouais.
Là, moi, je suis sur un atterrisseur et les Européens ont toujours raté l'atterrissage.
Ouais, ça fait
donc,
2 fois que ça rate.
Ouais, 2 fois, mais il n'y a eu que 2 fois en tout.
Ouais.
Donc, donc là, on est un peu stressé, c'est sûr. Hein, mais bon, on a 2 ans en plus.
Ouais, du coup, ça permet.
Oui, mais pas vraiment non plus, parce que comme on a tout fait pour avoir cette fenêtre de lancement là, eh ben on a tout délivré déjà, tout est déjà
parce que là tout était
intégré,
prêt,
ouais,
du
tout
coup.
Est intégré. Donc
ouais.
Il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes, comme les softwares, donc le logiciel qui pilote les sondes. Tu vois, il y a un pilotage plus ou moins automatique des sondes, en tout cas dans pleine phase de la mission.
Parce que comment ça se passe? Tout est piloté par la sonde en elle-même, en temps réel,
ouais,
ou c'est piloté depuis
les
la Terre?
Les deux.
Les deux.
Les deux. Donc,
parce
là,
que l'information, elle met du temps.
Non,
Hein.
non, ça, donc, ça dépend de quoi on parle. Hein. Grosso modo, en termes de pilotage ou de navigation d'un spacecraft, enfin d'une sonde, un orbiteur, quoi, d'un satellite, hein, surtout dans les phases de croisière, en fait, tu as très peu de manœuvres à faire, tu as très peu de pilotage à faire.
Parce qu'il y a une poussée.
Tu as une poussée qui, si elle est bien faite.
Sortie de l'atmosphère terrestre.
Ouais, grosso
ça
modo, ouais.
Ouais.
Enfin, tu fais pas forcément immédiatement, tu fais d'abord quelques tours, quelques orbites de Terre, et puis.
Tu prends de l'élan, non,
ouais,
c'est ça.
Si tu veux, ouais.
Ouais.
Et puis, tu fais ta poussée à un instant donné, au bon endroit, avec la bonne durée, etc. Ce qui te met dans ton orbite de transit,
okay,
avec une certaine précision. Cette précision, plus elle est bonne, moins tu as à naviguer ton spacecraft, moins tu as à faire quelque chose. Et puis, si, évidemment, elle n'est pas parfaite, donc tu as des corrections à amener.
Ouais.
Et tes corrections, ben, tu les calcules. OK, quand est-ce que je vais la faire? Plus tu la fais, plus tu en fais souvent, plus tu fais des petites corrections. Plus tu en fais rarement, et plus tu fais des corrections un peu plus grosses,
ouais,
sur la trajectoire. Mais grosso modo, donc pendant des semaines,
Ça va, quoi.
Il roule,
ouais,
tout seul, quoi.
D'accord.
Après, quand il arrive, les phases plus dures, c'est la descente.
Déjà, la mise en orbite, est-ce que c'est compliqué?
La mise en orbite peut être très compliquée, très risquée, oui. Et en même temps, bon, dans le cas de Juno, par exemple, moi, j'étais dans l'équipe de Juno, quand il s'est mis en orbite, moi, en interne, je savais qu'il y avait des vrais problèmes qui se jouaient, parce qu'on avait des problèmes de valve, d'ouverture de valve, etc., et qui fait qu'on n'était pas sûr
d'ouverture de valve des réacteurs, c'est
ouais du thruster là, je perds un peu mes mots français, je suis désolé, mais oui, que les boosters, si tu veux, tu les allumes, ils balancent
souvent c'est pour freiner, non?
Voilà, ouais.
Ouais.
Donc en fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe de manière typique, hein,
ouais.
Juno, quelques temps avant son arrivée sur Jupiter, se retourne. Donc il change d'attitude, comme je disais tout à l'heure, il se retourne autour de son centre de gravité pour mettre son gros booster, le plus gros réacteur, si tu veux,
ouais,
à l'avant, si tu veux, enfin,
ok,
côté,
oui,
côté
retourne,
là
quoi.
où il, voilà,
Ouais.
Côté il est. Et là, il doit, à un moment donné, allumer le booster pendant X secondes ou minutes, ça dépend de sa vitesse, et l'arrêter à un moment donné très précis.
Ouais,
si tu le laisses trop longtemps, tu freines trop et tu finis par te cracher dans la planète.
Et ouais.
Si tu le laisses pas assez longtemps, tu freines pas assez et
tu
passes et tu restes pas dans la gravité, dans le champ de gravité. Donc il y a une fenêtre, il y a vraiment quelque chose de précis. Et en fait, ce qu'on avait remarqué pendant les essais du booster avant la manœuvre, c'est que la valve, si tu veux, d'ouverture et de fermeture, du on-off, si tu veux, en simplifié, du booster,
ouais,
ne se remettait pas sur off au moment où on disait de le faire, quoi.
Ok.
Et donc il y avait une chance sur deux qu'on freine trop et qu'on se crache, quoi. Et ça s'est pas fait parce qu'elle a bien fermé, et que, voilà. Mais néanmoins, la conséquence un petit peu indirecte, c'est que Juno est resté sur une orbite à 53 jours. Donc il met 53 jours pour faire un tour autour de Jupiter.
Oui.
Alors que sa mission nominale, la configuration nominale de mission, c'était 14 jours.
Ah oui, donc,
donc on n'a pas réussi.
Ouais,
elle est plus loin, beaucoup,
okay,
plus loin.
Ah,
on n'a,
ouais,
pas réussi à réduire son demi-grand axe et son orbite. Ouais.
Ce que je pense, c'est que plus tu te rapproches,
ouais,
plus c'est dur d'avoir une orbite proche. Non, c'est ça qui est compliqué.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
C'est, il faut freiner de manière plus précise pour avoir une orbite beaucoup plus
mais tu
proche.
Peux le, non, parce que tu peux le faire. Non, non, parce que ça,
non,
se fait en plusieurs étapes. Ça.
Ah,
Il y a,
okay,
il y a une première phase qu'on appelle l'insertion d'orbite, orbit insertion, donc au moment où le spacecraft va arriver et se mettre en orbite, ça généralement il se retrouve inévitablement sur une des orbites qu'on appelle elliptiques, qui ont une forme d'ellipse.
Ouais.
Et puis après, on circularise un peu, on fait l'orbite qu'on a décidé de faire pour la science, et ça se fait par de la manœuvre
Ah, ça se fait par
répétée
étapes.
pendant plusieurs semaines derrière. Voilà.
D'accord,
Voilà,
ok.
ouais. Ça se fait pas d'un coup. Non.
Eh oui, d'accord.
Et après, tu mets des boosts soit à l'apocentre quand tu es le plus loin de la planète, soit au péricentre quand tu es le plus près. Tu fais des boosts dans les directions que tu veux pour donner la forme de l'orbite que tu cherches, quoi.
D'accord.
Mais Juno, on l'a pas fait. parce qu'on avait peur de se retrouver dans un cas où le booster ne marche pas bien et que finalement on perd la sonde.
Ah ouais, donc vous avez préféré arrêter ça comme c'est là pour pas la perdre, quoi.
Voilà.
D'accord. Ok, ça doit être dur de prendre des décisions comme ça.
C'était pas moi.
Ok, on tente un dernier coup, on arrête là.
Ouais, c'est pas facile. Mais en tout cas, pour les cas martiens, on a l'entrée dans l'atmosphère, ce qu'on appelle l'EDL, Entry Descent Landing, la phase d'entrée, de descente et d'atterrissage, qui est la partie la plus exigeante et la plus vraiment difficile, quoi. En l'occurrence, on pose à la surface des sondes qui font une tonne.
C'est une
belle petite bagnole qu'on va poser là-dessus qui arrive avec une vitesse relative de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, plusieurs kilomètres par seconde, peut-être 5 à 10, je ne sais plus exactement, peut-être 10.
D'accord.
Et tu dois la faire passer de cette valeur que je n'ai plus exactement en tête à zéro, quoi, puisque tu le poses. Tout ça en 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ça dépend. Grosso modo, 6-7 minutes. Quoi.
Ok. Et là, il n'y a aucun contrôle, c'est tout automatisé.
Donc là, c'est automatisé, inévitablement.
D'accord.
Parce que tout se passe en 7 minutes, mais le temps que l'information arrive jusque Terre, il y a déjà minimum 7 minutes, 8 minutes, ça dépend de la distance Terre-Mars, quoi. Mais c'est plutôt de l'ordre de 10-20 minutes. Fin.
D'accord.
Donc, et puis même si toi, tu as l'information, il faut que tu renvoies la commande, 10 minutes
donc
de plus.
C'est 20 minutes.
Tu peux pas.
Ouais.
Donc là, c'est effectivement l'ordinateur de bord qui calcule tout ça, quoi.
Ok, donc c'est là que c'est compliqué. Et
c'est là que ça a raté plusieurs fois.
D'accord.
Parce que tout est basé sur des capteurs. Ça, c'est de l'automatisme. Ça, c'est typiquement quelque chose que j'aurais pu faire en tant qu'ingénieur, moi.
D'accord.
Et que j'ai pas fait, mais c'est vraiment, ok, tu as des radars qui regardent ta distance au sol, par exemple. Sur base de cette information, tu vas décider de lâcher ton parachute ou pas.
Parce que c'est fait en temps réel. Tout est calculé avant et à tant de minutes, tac.
T'as un algorithme qui te dit quand t'es à telle altitude ou à telle pression atmosphérique, tu ouvres le parachute. Quand t'es tu ouvres le deuxième parachute, tu le lâches quand t'es à telle distance du sol, par exemple. Ce qu'Aparelli a raté parce que.
C'est la deuxième sonde européenne.
Ouais, c'est celle qui était avec TGO, ExoMars 2016.
Ok. TGO, c'est un orbiteur.
C'est un orbiteur, ouais.
Qui lui a marché.
Lui, il marche très bien.
Et il y avait un petit atterrisseur avec, chez Aparelli.
C'est ça.
Et lui a.
Qui était un démonstrateur pour la mission qui est celle sur laquelle je travaille, la deuxième partie de la mission, ExoMars 2020. Quoi. Et cet atterrisseur a raté. Pourquoi ? Parce qu'il a largué son parachute trop tôt. Et pourquoi il a largué son parachute trop tôt ? Parce qu'il a cru qu'il était posé. Et pourquoi il a cru qu'il était posé ? Parce qu'il a plus vu le sol avec un de ses radars pour des raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que je crois que ça ne sert à rien, mais grosso modo, il a été mal calibré.
Tu penses
Depuis le sol.
Ou c'est pas une tempête ou
Non, c'est depuis le sol.
Ok.
Je t'en parlerai offline si tu veux, mais ils ont eu une information qui était contradictoire avec d'autres et il n'a pas pris la bonne décision, quoi.
D'accord, ok.
Donc, bon. S'il n'avait rien fait, en fait, on aurait peut-être eu Scaparelli en vie. Mais il a décidé de réagir en disant « Ah, c'est bon, on est posé, je lâche tout. » Et plouf.
D'accord. Et maintenant, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing in case I need it in my stomach or my heart chainmail hunger of the pine Sleeplessly embracing yon yon tin to me, plenty more deserancy, and so you finally use it. Bedding with me, you see at night your heart wears night armor, hunger of the pine.
Vous venez d'écouter le groupe Algy avec le morceau Hunger of Pine. Et on reprend tout de suite l'interview.
Et donc tu me disais qu'en ce moment, toi tu es sur Insight aussi.
Ouais.
Partout en fait.
Non, pas du tout, il y a plein de choses quoi. Oui, je suis sur Insight. Donc Insight, c'est la dernière sonde que la NASA a posée en 2018 à la surface de Mars. Et qui a pour but, c'est la première mission qui a vraiment pour but de sonder l'intérieur de Mars. Donc à la surface, et là les Français peuvent quand même crier cocorico, parce qu'à la surface de Mars, aujourd'hui, il y a le plus précis des sismomètres jamais créés, qui est un sismomètre français.
Insight,
la sonde a déployé, donc a posé sur la surface. Il l'a sorti et il l'a posé.
Okay.
Et qui est l'instrument phare de la mission. Et qui est un fusil, si tu veux, une oreille, une super oreille posée à la surface de Mars qui écoute les vibrations, les oscillations, les séismes de Mars, quoi. Et on en a entendu un paquet.
Je crois que j'ai entendu un son. Normalement, ils ont diffusé ça sur Internet.
Tu peux en tirer ça en son.
Bruit de fond comme
Il est très 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 précis, quoi. Hein, il peut voir, il peut sentir. La dilatation thermique de son câble, enfin je sais pas exactement les bons exemples, mais c'est quelque chose d'extrêmement sensible. S'il était dans cette pièce, il sentirait les battements d'ailes de la mouche, quoi.
D'accord.
Qui passe à côté, hein.
Ah ouais,
donc c'est quelque chose d'extra. Sauf qu'évidemment, Mars est une planète moins active d'un point de vue sismique que la Terre, donc elle a pas la tectonique des plaques comme on l'a, elle a pas de volcanisme actif en tout cas. Et donc du coup, les sources qu'on attendait à voir comme générateurs de séismes sont les impacts de météores et éventuellement une certaine activité de la croûte. Et en fait, on voit que Mars a quand même une tectonique, ça ne veut pas dire qu'elle a des plaques, Elle n'a pas de plaque, c'est qu'une seule croûte, quoi, si tu veux, mais elle bouge quand même, il y a des frictions là-dedans.
Ça veut dire qu'en dessous, il y a quand même...
Ça veut dire qu'il y a du dynamisme, ouais.
D'accord.
Mais donc ça, c'est un instrument qui est un instrument français, le fleuron de la mission, mais qui n'est pas celui sur lequel je travaille.
Ok.
Moi, je travaille sur encore des ondes, tout ce qui est radio... Moi, ma science, c'est la radioscience, on appelle ça, donc c'est vraiment l'utilisation des ondes radio pour faire quelque chose.
D'accord.
Donc, en l'occurrence, pour reconstruire des trajectoires, mais je peux aussi sonder une atmosphère, par exemple, en regardant comment l'onde se diffracte, comment se réfracte, pardon, dans l'atmosphère, donc comment elle est perturbée par l'atmosphère.
Okay.
Donc, elle peut te donner une information sur l'atmosphère comme ça, ou plein de choses. Quoi.
Ouais. D'accord. Et InSight, il y avait aussi une foreuse, hein.
c'est ça qui
est bloqué, qui se débloque.
Ouais. Ça, c'était un super instrument aussi, c'était un instrument allemand qui s'appelle HP Cube, HP3, et qui pour HP pour Heat Probe, ça veut dire en fait son but à cette fosse c'était de mesurer le flux de chaleur de Mars, donc à laquelle vitesse Mars refroidit. En fait, le but de cette mission c'est vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur.
D'accord.
Pour voir comment elle a été formée, comment elle a évolué et vers où elle va, et essayer de comparer ça à la Terre. Parce que Mars est un cas un peu particulier, elle est plus petite que ce qu'on attend, elle semble avoir eu une atmosphère, elle semble avoir eu de l'eau qui a assez écoulé à sa surface, elle n'a plus. Elle a potentiellement eu un champ magnétique, mais on n'en est pas sûr, mais en tout cas on voit des résidus de champ magnétique localement à certains endroits.
Ah, ouais,
okay. Mars est comme une planète morte-née. C'est ce qui en fait quelque chose d'assez intéressant, avec... à la fois assez grosse que pour s'être différenciée, donc avoir eu un noyau, enfin, c'est pas une planète naine qui serait juste un gros astéroïde, quoi, c'est une vraie planète qui s'est mise en place, mais qui s'est arrêtée à un moment donné. Donc elle peut nous donner, si tu veux, c'est comme regarder la Terre à un instant de son évolution, quoi.
D'accord, ah ouais.
Et donc le but, c'est vraiment de comprendre Mars, de comprendre comment elle se refroidit, et donc ça, c'était le but d'HP3. De vraiment regarder le flux de chaleur, à quelle vitesse s'échappe la chaleur de Mars.
Parce qu'elle se refroidit depuis qu'on l'observe.
Toutes les planètes, tout se refroidit en fait. Ouais.
Ah ouais, ouais. Okay.
Toutes les planètes se refroidissent. Ouais. Et Mars, et donc cet instrument était vraiment génial parce que il avait, si tu veux, c'est comme planter un pieu en tapant dessus au marteau,
ouais.
Sauf que le marteau est dans le pieu. Donc c'était une mole, ils appellent ça, donc une taupe aussi, quoi.
Une espèce de poids à l'intérieur d'une pointe.
Une pointe, et dans la pointe, non c'est plus... Ouais, à l'intérieur de la pointe, t'as vraiment un espèce de système de ressort, ou je sais pas quoi, et il se tape sur la tête lui-même, en fait, si tu veux. Et il rentre comme ça, boum, boum, boum. Il devait rentrer à 5 mètres, c'était énorme. Et le fait est qu'en fait, pour ce faire, il fallait que... la terre dans laquelle il rentre, ou le matériau dans lequel il rentre, soit assez adhésif pour qu'à chaque fois qu'il rentre, il ne ressorte pas. Et là, en fait, il rentre de quelques centimètres et boum, tout d'un coup, il ressort comme un bouchon.
Il rebondit. Ouais, ah ouais,
comme un bouchon. Vrai. Et donc ça, ils ne l'avaient pas vraiment prévu. En tout cas, ils n'avaient pas pensé que ça puisse être le cas. Ils avaient imaginé, ils avaient déjà vu ce cas de scénario-là en laboratoire, mais ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver sur Mars.
D'accord.
Et donc ça, c'est un gros problème et un certain échec, même s'ils ne le disent pas de la mission. Quoi.
Parce que l'atterrisseur, il ne peut pas bouger. Hein.
Ben non.
Là, la foreuse, elle est en place.
Ouais.
Et...
Ouais. Ils auraient pu la déplacer parce qu'ils ont un bras qui déplace les instruments.
Ah oui.
Mais je crois que ce n'est pas si simple quand même. Ouais. Enfin bref, je ne sais pas trop les détails techniques, mais du coup, dont ils vont... a priori pas le faire. Ils ont tassé avec le bras, ils sont venus à côté de là où creuse la
pour appuyer, la
pointe, pour appuyer, pour donner de la densité,
pour éviter le rebond.
Ah, excellent. Et ça a marché un peu, puis boum, plus, enfin bref.
Ils essayent quoi.
Ouais. C'est énorme. Ben, ça fait maintenant presque un an et demi qu'ils n'y arrivent pas. Quoi.
Okay. Et toi, du coup, dans ton champ de recherche, tu as des coups.
Donc moi j'utilise le troisième instrument. En fait, il n'y a que trois instruments sur cette mission, ce qui est très peu.
Ok.
Qui est finalement ce transpondeur, on appelle ça. Donc qui reçoit, c'est un miroir électromagnétique, ce que j'utilise.
Un peu comme un sonar, un radar.
Non, parce qu'il est, il est pas passif réellement, mais en réalité c'est un miroir électromagnétique. Le sonar ou le radar, il est actif. C'est lui qui envoie l'onde et il écoute l'écho, quoi.
Ouais.
Alors que là, moi, ça c'est plus pour faire de l'altimétrie, donc pour faire des mesures de distance, par exemple, des trucs comme ça. Pas que, mais moi j'utilise un miroir électromagnétique, donc tu imagines comme un miroir, quoi. dans lequel tu te regardes le matin, oui. Et ben là, il reçoit une onde qui vient depuis la Terre et il la renvoie sans la modifier, théoriquement. Et la Terre reçoit cette onde et peut dire, ok, InSight s'est éloigné de moi de 5 mètres par seconde ou de 5 km par seconde. Ou... Et donc, on peut avoir, grâce à ça, et grâce à l'effet Doppler, que tout le monde connaît un peu, je ne sais pas si tu veux que j'explique ce que c'est, mais grosso oui. modo, c'est le bruit d'une voiture qui s'éloigne ou qui s'approche. Hein, tu fermes oui. les yeux, tu entends le bah, tu sais quand est-ce qu'elle se rapproche, quand est-ce qu'elle s'éloigne, juste les yeux fermés.
Bien sûr,
et ouais. ça, c'est ton analyse, l'analyse de ton cerveau de l'effet Doppler. Il entend que les fréquences vont dans les aigus, il s'approche, les fréquences s'en vont vers les graves et s'éloignent. On utilise exactement ce même processus, pas sur les ondes sonores, mais sur les ondes électromagnétiques, comme la lumière, par exemple.
Ouais.
Mais là, d'autres fréquences, pour mesurer comment InSight s'approche et s'éloigne de nous, la Terre. Et grâce à ça, on peut reconstruire la trajectoire d'InSight. La trajectoire d'InSight, en fait, c'est la manière dont tourne Mars, la manière dont se déplace Mars dans l'espace.
D'accord.
Et alors, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des déplacements qui sont de l'ordre de quelques centimètres, dizaines de centimètres.
Ah
donc,
oui.
on cherche à avoir un déplacement de 10 cm ici, vu de la Terre. C'est
wow.
quand même super précis et compliqué.
Ah ouais,
quoi.
C'est génial.
Parce que c'est ce qu'on attend de l'intérieur profond de Mars et de son noyau liquide. On pense que son noyau liquide peut modifier
ah,
la position.
Toute la planète
Non, c'est pas une contraction,
non.
C'est plus une oscillation, si tu veux. Une
ah,
vibration
ouais.
de la planète. Au lieu d'être de pointer vers les, comme si tu veux la Terre, au lieu de pointer vers l'étoile polaire de manière bien constante,
ouais.
son orientation, donc l'axe qui va vers l'étoile polaire, bougerait un petit peu comme ça.
Ouais, d'accord, ouais.
Et ce déplacement-là, dans l'espace, se traduit et a été estimé par des modélisateurs, quoi, pouvant aller de quelques dizaines de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Donc c'est très très petit, on cherche quelque chose de cet ordre-là,
okay.
vu depuis des millions de kilomètres, quoi. Alors, juste en envoyant une onde radio.
Wow.
Donc c'est un vrai défi. Hein,
et du coup, alors ça bouge pas.
J'ai pas le droit encore de te le dire.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, c'est vrai, en plus,
parce que.
Ouais, parce que. Non, mais c'est, j'ai pas
le droit. Non, mais je comprends. Bien sûr.
Mais c'est quelque chose. Oui, ça bouge. Ouais.
Okay.
Ça bouge. Maintenant, on est en.
Les données. C'est exclusivité Ardiwa. Waouh.
Non, mais les données. Pour avoir quelque chose de fiable, il faut accumuler les données.
Bien sûr, ouais.
Et donc
ouais.
là, on les accumule depuis 500 jours maintenant, ce qui est déjà bien.
Okay.
Qui est en théorie, d'un point de vue théorique, la limite à partir de laquelle on commence à voir les choses, vraiment. Mais néanmoins, quand on combine déjà les données qu'on a jusqu'à présent avec les données des anciennes missions, Viking, Pathfinder, les missions américaines, quoi, grosso modo,
oui.
on peut déjà voir des choses.
Okay.
Maintenant, on les voit avec une certaine précision,
ah,
qui n'est pas encore assez bonne. Et donc, j'attends d'accumuler jour après jour les données pour pouvoir avoir quelque chose de bien précis et faire potentiellement une avancée notable.
Waouh.
Ça serait bien, ouais.
Super.
Cet été, j'espère.
Ok, chouette. Super. Eh ben, dis donc, toutes ces choses, c'est super intéressant.
Mm-hmm.
Et du coup, tu bosses en parallèle sur ça
ouais.
et sur...
Et sur
ExoMars ouais. 2022.
Ouais.
C'est ça, hein.
C'est ça.
De...
Okay. Ouais.
Et alors, deux mots, ExoMars 2022.
Ouais.
Juste.
Oui, ExoMars 2022, donc c'est une mission qui va aussi se poser à la surface de Mars, qui est faite de deux modules. Un module qu'on appelle la plateforme de surface, qui, elle, est designé ou développé par les Russes, l'agence spatiale Roscosmos,
ouais.
et qui a à son bord une dizaine d'instruments, dont okay. celui dont je suis responsable moi, qui s'appelle LARA, Lander, pour Lander Radio Science.
Okay.
Et y a un rover qui va être sur cette plateforme, que cette plateforme va poser, délivrer sur Mars, si tu veux. Ce rover, lui, il est développé par les Européens. Il a aussi une vingtaine d'instruments, pas mal, quoi.
D'accord.
Et lui, son but, c'est vraiment d'analyser la surface de Mars pour y chercher les traces de vie. C'est vraiment le but d'ExoMars.
Ok.
ExoMars, Il y avait le TGO qui est déjà en orbite pour Trace Gas Orbiter. Donc, il était là pour voir les, certains gaz comme le méthane. Le méthane est un gaz qui est relatif souvent à la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils le cherchent en particulier. Bon,
d'accord.
Il s'avère que pour l'instant, ils n'en voient pas.
D'accord.
Donc, ça, c'est pas très bon. Mais,
ils n'ont pas trouvé des traces, c'est pas ça, les gens.
C'était pas le TGO, quoi. C'était Curiosity.
Ah oui.
Il y a eu, on a déjà vu des traces, ah, mais ouais. Le TGO, qui lui est un appareil qui sonde toute la planète et qui est censé être le plus sensible de tous, n'en voit pas.
Ah, ok.
Alors, il y a un gros débat dans la communauté. Moi, je suis ça de loin, mais donc d'accord. C'est un peu, tu vois, les gens, c'est un peu électrique là sur le sujet en ce moment.
D'accord.
Mais a priori, objectivement, on voit rien.
Ok.
Donc, ouais. Alors la question c'est, est-ce qu'il est possible qu'on voit des traces de méthane que périodiquement dans le temps, puisque les mesures in situ de Curiosity, donc le rover américain, n'ont pas été faites en même temps que les mesures de l'orbiteur, donc potentiellement
il y aurait plus.
Non, dans le temps.
Dans le temps.
Plutôt que dans l'espace.
D'accord.
Bref, je suis pas un spécialiste, mais donc le TGO lui regarde les traces de gaz relatifs à la vie dans l'atmosphère. Et le rover, lui, il va vraiment regarder la composition chimique. En fait, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ouais. il va faire une mesure d'échantillons, etc., pour voir s'il trouve des traces de vie. Quoi.
D'accord. Et donc, toi, l'instrument
et,
que tu...
Et moi, l'instrument est encore un instrument de radioscience. D'accord. C'est ma spécialité, encore ouais. Basé sur des trajectoires, etc.
Et, c'est le même KeenSight ou...
C'est le même genre. C'est même le même genre. Okay. Et un peu complémentaires, ils sont complémentaires.
Ça affine, ça précise.
Ça affine, ça précise. Confirme. Ça permet de détecter, il permettra aussi de détecter de nouveaux modes d'oscillation que InSight est censé ne pas voir parce qu'il n'est pas adapté pour ça, en particulier parce qu'il n'est pas au bon endroit sur la planète, des trucs comme ça. La planète.
Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir s'il y a une oscillation ou pas ?
Eh ben, ça nous apporte de savoir qu'est-ce qui, en fait, comment, regarde, je vais la tourner, c'est moi qui vais te poser une question. Comment savoir qu'est-ce qui se passe dans le très fort intérieur d'une planète, tout au milieu? Comment tu fais? Il n'y a pas moyen d'aller prendre une photo, il n'y a pas moyen de la couper en deux comme une, comme un carnifier de pommes. Comment on fait? Il y a deux moyens. Un, c'est les sismomètres. Mais pour ça, il faut des sismomètres actifs, pas comme le CIS qui est sur Mars aujourd'hui, qui lui écoute. Seulement, mais il faut des sismomètres, en gros un qui tape et l'autre qui écoute de l'autre côté de la planète par exemple,
oui.
Et voir des ondes qui traversent toute la planète. Alors tu peux voir à travers les échos qui se passent là-dedans, tu peux sonder comme on passe un rayon X de ton corps, quoi.
En traversant.
Ouais. Mais on n'a pas ça sur Mars.
Ouais.
La seule et unique autre manière de faire, c'est de regarder comment elle oscille.
D'accord.
Et en regardant comment elle oscille, comment elle vibre, comment varie sa rotation, sa longueur de son jour, ou comment varie son orientation, donc l'axe qui pointe vers l'étoile polaire pour la Terre,
ouais.
Dans l'espace et dans le temps, seulement en regardant ça, tu peux donner des informations sur le très profond. Enfin, pas seulement, mais c'est un des plus efficaces.
D'accord.
L'autre, ouais. C'est en regardant son champ de gravité et comment il évolue.
Okay.
Son champ de gravité... va avoir des composantes variables aussi. Et il y a certaines composantes variables qui sont directement liées aussi à l'intérieur,
d'accord.
L'intérieur profond.
Ah ouais,
donc c'est en combinant la gravité et la rotation qu'on arrive à contraindre l'intérieur profond.
Ce qui se passe à l'intérieur.
Ouais.
D'accord.
Et ça donne des informations sur, ok, plus, si tu as un gros noyau liquide, ça veut dire que tu as beaucoup de chaleur là-dedans, donc tu as une espérance de vie, si tu veux, de la planète qui est améliorée, enfin qui est... augmenter, ou tu vois, ça te donne une information essentielle, d'accord. Sur comment elle a été formée et comment il évolue dans le temps,
d'accord.
C'est vraiment ce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on cherche à comprendre comment le système solaire s'est formé
et ouais.
Comment les planètes se forment, etc.,
ouais. D'où on vient finalement,
d'où on vient et
ouais.
Où on va,
ouais. Ok, super, génial, plein de projets en perspective,
ouais, en cours même,
en cours, ouais, c'est sûr, et ben super, et du coup t'as d'autres projets pour le futur, plus ou moins lointains, ou déjà ça c'est déjà pas mal?
Bah, je t'avouerais que j'aimerais que ça soit presque déjà derrière moi.
Ouais, ça fait longtemps que tu travailles
ouais,
dessus.
Oui, j'ai travaillé pas mal dessus, ouais. et puis maintenant j'ai les données qui sont déjà accumulées via la mission NASA.
D'accord.
Donc l'apport de la mission européenne et la complémentarité est indubitable, mais néanmoins la vraie excitation, c'est d'avoir les premières données. Hein.
C'est les découvertes.
Ouais, c'est les premières découvertes. Génial, ouais. Et donc ça, c'est cool, et c'est ce qui se passe plus ou moins maintenant, juste maintenant là. Mais non, oui, j'ai d'autres choses qui m'intéressent, comme les mondes de ce qu'on appelle l'outer solar system, donc le système solaire externe. Que je trouve fascinant.
C'est Jupiter, Saturne, ouais, Uranus, Neptune.
Ouais. Il y a des missions qui... Donc il y a Cassini qui vient de mourir, qui a été une mission qui est restée autour de Saturne pendant plus de 10 ans, 15 ans, et qui a fait des découvertes incroyables, ne serait-ce que visuelles. Je conseille à tout le monde d'aller voir les photos que Cassini a prises du monde crônien, comme on l'appelle, ou saturnien. Ouais. C'est magnifique, quoi. Ouais. Et de voir ces mondes comme Encelade, par exemple, qui sont des boules de glace...
Les
geysers dans son pôle sud, par exemple, des trucs. Ça, c'est fascinant. Et on sait qu'il y a des océans. Il y a plus d'eau sur Encelade que sur Terre. D'eau salée. Il y a 20 fois plus d'eau. Enfin, c'est énorme, la différence. Il y a des océans de 100 km de profondeur. Enfin, ils sont sous la glace, sous la banquise. Mais il y a énormément, là, en termes de vie, de potentiel. En termes de complexité de système, c'est énorme.
Tu penses que là-bas, il y a plus de choses
ouais. Pour moi, c'est les mondes à aller explorer, ouais, c'est ouais. clair. Maintenant, pour aller autour de Saturne, on n'y va pas comme autour de Mars en 6 mois.
Ouais,
donc, c'est pas pareil. Hein. C'est frustrant, d'ailleurs, ça va devoir attendre. Triton, un des satellites de Neptune, est aussi fascinant parce que... Il a été visité qu'une seule fois. Quoi. Seulement une fois. Et on pense qu'il a plein de richesses plein de choses à nous dire. Quoi. Donc si moi je claquais des doigts, j'enverrais quelque chose autour de Triton tout de suite. Et donc si tu me poses la question, ben, à la fois ces mondes-là m'intéressent de plus en plus. Aussi les petits corps, donc les petits corps comme les astéroïdes, parce que les astéroïdes, on pense que ce qu'on les appelle en anglais, les building blocks du solar system, c'est-à-dire les briques.
Les premières briques.
Et donc, ce avec quoi on a créé la maison, qui est le système solaire, quoi. Et donc, ils ont encapsulé en eux l'origine, enfin, ce qui s'est passé au tout début, quoi. Donc, ils sont quand même aussi assez intéressants. Et moi, là, en ce moment, je suis en train de penser à l'instrument deuxième génération que j'aimerais poser sur un de ces petits corps, par exemple. Ou autour des satellites, autour de Jupiter, par exemple, ou autour de Neptune, enfin, peu importe.
Ah, ouais.
Donc, c'est avoir un instrument qui va au-delà de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà du miroir électromagnétique,
oui.
qui nous permet de calculer une trajectoire, hein, mais qui nous permet aussi de sonder
la planète,
ouais. donc de traverser le corps, quoi. Et comme vraiment, vraiment faire du X-ray, tu vois, enfin, ce que tu fais sur le corps humain, quoi.
Ah oui.
Hein, tu balances une onde et tu la récupères de l'autre côté et tu vois, si tu veux, l'intérieur.
Quoi. Ouais. Ouais.
Donc, je réfléchis à ça de plus en plus. C'est théorique pour l'instant, mais j'aimerais donner naissance à un nouvel instrument qui combinerait plusieurs sciences. Voilà.
Waouh, super.
Ça serait cool, ça.
Eh ben merci Seb.
Ben, merci à vous. Ouais.
Ouais, c'est toujours chouette d'avoir des belles rencontres comme ça. Ça va bien compléter mon cycle martien.
Ouais,
merci à toi.
Ouais. Tu vas pouvoir le découper tellement c'est long. Non
ouais ouais.
Mais merci à tout le monde.
Et ben, merci, à bientôt.
Au revoir.